Ce matin, on jase avec l'ami Andrea Doyon de la boîte de divertissement transmédia Alice et Smith. Au menu, transmédia et ARG, les fameux Alternate Reality Games. Bon petit cast!
Comment est-ce qu'il va?
Ah, bien, toi?
Ben oui, ça va. J'ai pensé à vous autres parce que j'ai rencontré du monde qui font peut-être plus dans le transmédia, genre des films qui se déclinent sur des séries web, etc. Mais je trouvais que l'exercice, en tout cas, tout le volet ARG, c'est du transmédia a priori, si c'est pas de là que ça vient la bête. Fait que je trouvais ça intéressant de voir ça à partir de cet angle-là. Puis comme t'es et non seulement un fanat de la patente, mais t'as même tes propres produits maintenant. Je me suis dit que ça vaudrait la peine qu'on se fasse une petite jasette. Fait que si t'es prête, on va pouvoir se commencer ça.
Ben oui, absolument. Puis oui, je pense fondamentalement que Transmedia a découlé principalement de 10 ans de ARG, qui était certes niche, mais qui ont été un peu l'instigateur du mouvement Transmedia, où les gens ont décidé de l'utiliser à beaucoup d'autres sources que seulement des mécaniques marketing.
Ah oui.
Je pense que oui, je pense qu'il y a un lien direct entre Transmedia et l'ancêtre qui était le ARG dans les années 2000.
Oui, absolument. Parce que moi, effectivement, mon premier contact en tant que publicitaire numérique, c'était I Love Bees.
Ouais.
Ça a comme changé ma façon de voir les limites de la communication marketing, mais même au-delà de ça, mais moi je fais plus dans la communication marketing, puis c'était comme, waouh, là on est en train de bien travailler les possibilités intrinsèques de plusieurs médias dans une expérience holistique, plutôt que, comme ce fut trop longtemps le cas, puis celle-là encore aujourd'hui en publicité, on a un spot TV, puis on fait un petit montage des fois pour le mettre sur le web, puis sur Facebook, on met le lien pour aller voir le petit message. Fait que finalement, c'est juste du multimédia, mais c'est pas une véritable expérience transmédia. Alors que dans le cas de I Love Bees, puis tout ce qui a suivi par la suite, c'était comme, wow, il y a un téléphone qui sonne sur une place publique, puis c'est mon espèce de martien qui m'appelle, je capote. Ça serait quoi pour toi, Andrea, ta définition du transmédia?
Nous, on utilise, parce qu'il y en a plein, t'sais, fondamentalement, la définition la plus générique, c'est de dire qu'on interagit avec l'auditeur à travers multiples médias. Et on transcende l'ensemble des médias pour faire vivre une expérience ou faire vivre notre narratif.
Mais ta définition à toi?
Oui, c'est ça. Ma définition à moi, puis l'utilisation qu'on en fait, c'est avant tout de faire vivre ou plutôt de faire plonger notre auditeur dans notre univers, dans notre fiction qu'on a créée, à travers tous les points de contact de sa réalité physique, de sa réalité, de son monde réel, finalement. Fait que c'est vraiment de franchir la ligne entre la réalité et la fiction en utilisant tous les médias à notre disposition pour pouvoir le faire. Cette ligne-là est aussi interactive, c'est-à-dire que bien réalisé, je pense que une campagne transmédia permet de laisser les joueurs, les participants, avoir un impact sur l'évolution de l'histoire qu'on crée en transmédia. Donc, si moi j'interagis avec, tu donnes l'exemple de la cabine téléphonique, si j'interagis avec la cabine téléphonique, il se passe quelque chose. Si j'interagis pas, il se passe autre chose. Donc, c'est l'habilité de faire une sorte de simulateur dans la vraie vie d'une histoire, puis de laisser les gens jouer dans ce simulateur-là. En anglais, on utilise le terme sandbox.
Comment t'appelles ça? Sandbox?
Sand, comme le sable. Sandbox.
Okay. Sandbox. Un carré de sable.
Ouais, ton carré de sable, exactement. Okay. Sandbox en gaming, c'est le concept que tu vas créer un environnement avec des règles, puis les gens vont faire évoluer naturellement, de manière organique, cet environnement-là. Donc, c'est l'équivalent d'un simulateur. Puis, quand tu lances du transmédia là-dedans, je trouve que ça peut créer des simulateurs qui sont complètement uniques. Présentement, ces simulateurs-là sont plus dans l'univers de jeu. C'est-à-dire que tu vas rentrer, par exemple, dans EVE Online, qui est un jeu d'espace. Tu vas créer ta compagnie, tu vas te mettre à produire des systèmes. Ils vont être achetés par des factions, il va y avoir des guerres. Tout ça, c'est créé par les joueurs. Le jeu évolue en fonction de ce que les joueurs font et non en fonction des règles d'affaires qui ont été créé par les game designers.
Okay.
Si tu appliques ce concept-là de sandbox au transmédia, tu permets vraiment au transmédia d'être une plateforme complètement ouverte d'expérience et de simulation organique, finalement, beaucoup plus que seulement un narratif qui est distribué à travers multiples canaux. Donc, je ne sais pas si je suis clair.
Oh, oui, c'est comme un transmédia 2.0. Fait qu'au-delà du fait que déjà le transmédia, au sens le plus pur du terme, suggérait une ligne narrative, mais qui pouvait évoluer de façon concomitante ou même différente sur différents plateformes. Là. C'est-à-dire que, bon, je trippe sur un film, mais je peux aller voir, je peux lire une bande dessinée avec l'histoire d'un des personnages, etc. Mais c'est quand même juste une ligne narrative où l'ensemble de l'histoire est contrôlé par le ou les créateurs. Alors que toi, ce que tu dis, c'est à partir de là, on peut même aller plus loin pour faire en sorte que au-delà d'une simple expérience personnelle, j'ai carrément un impact sur la suite de la patente pour d'autres utilisateurs éventuels, comme une espèce de UGC, mais fois 1000.
Exactement. Je pense que le concept, en fait, dans le transmédia, pour nous, l'intégration du UGC fait partie du portefeuille du transmédia, fait partie de l'ensemble des canaux qu'on doit intégrer, qu'on doit utiliser. Plutôt, c'est pas un canal, parce que là, le UGC, c'est plus un comportement. Mais le UGC fait partie des items de l'équation du transmédia. Pas seulement d'être pervasif, donc d'être multi-canaux, finalement. Ça, il n'y a pas beaucoup de RG qui intègre le UGC dans la composante cœur du transmédia.
Ben non, hein? Ben en tout cas, moi, c'est la première fois que je la pogne comme ça, effectivement. Dans ce cadre-là, finalement, l'auteur ou les auteurs, ils ont comme à peu près plus de contrôle sur où va la patente.
Ben, l'auteur a le contrôle sur ses entités, ce qu'on appelle les NPC qu'il va avoir créés.
C'est quoi la définition de NPC?
NPC, c'est non-playing characters. C'est tous les personnages qui ne sont pas contrôlés par un joueur ou par un spectateur ou par un consommateur.
Okay.
Ce sont vraiment les entités que tu crées en tant que auteur, finalement, mm-hmm. et que tu contrôles. Mais évidemment, tu t'assures que ces entités-là ont une certaine logique d'interaction. C'est-à-dire que si tous les joueurs se développent finalement une activité contre ton NPC ou avec ton NPC, bien évidemment, tu fais travailler ton NPC logiquement avec ta communauté. Il faut qu'il y ait une symbiose et un écosystème qui tienne le bout. Idéalement, ton sandbox ou ton environnement est assez bien fait pour qu'à une certaine limite, on soit plus capable de faire la différence entre tes entités à toi, les entités qui sont naturellement, qui sont venues au monde à travers l'interaction de tes joueurs, de ta communauté.
Fait qu'au-delà, même plus loin que le UGC, dans ce cas-là, ça fait en sorte que ce nouveau contenu ou ces nouvelles actions, ces nouveaux potentiels-là, font en sorte que même l'auteur est pogné à continuer à jouer à cette patente-là pour faire évoluer la game de son côté.
Oui, l'auteur fait partie de l'écosystème. L'auteur fait partie de la game avec l'ensemble des joueurs lui aussi, finalement, puis il contrôle plus de NPC que des joueurs,
finalement. À ton avis, c'est-tu pensable que des marques vont commencer à évoluer? J'ai de la misère à évaluer la chose, mais ça a l'air d'un. Ce type d'activité-là a l'air de. À tout le moins demander une grande énergie.
Est-ce que le ARG va faire partie de la planification budgétaire d'un annonceur? La réponse est probablement peu ou pas d'annonceurs vont oser attaquer ce marché-là, ou des annonceurs qui ont déjà attaqué de créer leur propre contenu, d'avoir leur propre unité de contenu, puis qui vont comprendre l'importance et la valeur du transmédia dans leur planification de communication.
C'est pour ça que je te pose la question.
Je pourrais facilement imaginer un Red Bull embarqué dans la game de manière intéressante, ou les compagnies de gaming, parce qu'ils ont des grosses communautés actives, les compagnies de films aussi ont des gros fanbases. Fait que les compagnies qui se sont bâties leur propre fanbase, leur propre canal de communication, sont probablement plus prêts à comprendre la valeur du transmédia dans leur planification budgétaire qu'une compagnie qui fait juste l'achat média de transmédia. Fait qu'il y a une certaine. Je ne dis pas de manière condescendante, mais je pense qu'il y a une certaine maturité nécessaire dans un département marketing pour comprendre la valeur et la puissance du transmédia pour s'intégrer dans la vie des jeunes.
Ben c'est dans ce sens-là que je te pose la question, parce que si on regarde l'état des lieux actuels, le Moses de content marketing est traité à toutes sortes de sauces. Tout le monde en parle, pas tout le monde qui le fait bien, mais il y en a qui s'investissent là-dedans, qui comprennent jusqu'à un certain point l'importance de créer un contenu. On sait aussi par ailleurs qu'il y a plusieurs marques qui investissent plus ou moins bien les médias sociaux justement pour aller chercher de l'engagement au-delà du taux de clic, au-delà des eyeballs. Ultimement, c'est un Moses de beau terrain de jeu pour fidéliser les consommateurs pour leur faire vivre une expérience de marque qui déborde avant et après l'achat d'un produit X. Moi, je me demande, c'est juste le fait que, en fait, c'est une question d'éducation ou de mise à jour sur ce qui est possible. Tu sais, je regarde juste, mettons, à mon époque, je me battais où j'ouvrais les os pour essayer de faire comprendre qu'avec une petite bannière, ben, il y avait une façon de raconter des histoires, de faire vivre des expériences là-dedans. Puis la meilleure façon d'ouvrir les esprits, de rendre matures mes clients à l'époque, c'était justement d'aller chercher des exemples assez frappants de ce qui était possible de faire. Puis ça, tant aux yeux du client que mes équipes de création à l'interne, à partir du moment qu'ils voyaient ça, c'était comme « OK, on va aller jouer là-dedans. » Fait que je me demande jusqu'à un certain point si le transmédia est pas encore, puis encore plus probablement les ARG, si c'est pas comme une bébite méconnue a priori, qui a l'air d'un trip de geek, mais qui dans le fond, si les marketeurs la comprenaient mieux, la bête, ils seraient peut-être tentés de s'investir dans une expérience transmédiatique. Tu sais, nos fans sur Facebook, sur LinkedIn, etc., ça se trouve à être, en principe, sauf ceux qui sont de la compétition, qui sont là pour nous sneaker, mais ils se trouvent avec des ambassadeurs. Il y a quelqu'un qui a dit « Moi, j'aime assez Budweiser pour suivre Budweiser sur Facebook. » Ben, l'engagement est assez poche, puis il y a plein de compagnies qui comprennent ça juste comme un straight media, fait que tu regardes la page, puis ça dit le hamburger est 99 cents aujourd'hui, puis le lendemain, c'est la patate frite qui est 99 cents, il n'y en a pas d'engagement. Hein.
Et si on voit le transmédia et l'ARG comme un outil pour engager tes ambassadeurs et pour convertir des ambassadeurs, je pense qu'on regarde de la bonne manière. Si on le regarde comme un outil purement en compétition avec l'achat média, par exemple, ben on n'a pas compris quelle était la mécanique, quel type de relation se crée entre ta marque et l'individu à travers un transmédia, à travers un ARG.
Combien ça peut coûter pour développer une expérience de base de type ARG, cette plateforme-là? Sky is the limit, là, mais...
Ouais, sky is the limit, mais on a fait des ARG pour 20 000, 30 000 $ une campagne qui visait un segment de clients précis avec un besoin précis pour aller livrer un type d'engagement ou une expérience pour faire connaître un produit ou rallier des ambassadeurs ou rallier des gens. On a fait des campagnes à 20 000, 30 000 $ puis on a fait des campagnes à 200 000, 300 000 $
Moi, je fais juste entendre, je dis « Hein? Wow! » C'est-à-dire que avec un de mes clients, je pourrais très bien envisager, au lieu de mettre 30 000 $ sur Facebook, je pourrais mettre 30 000 $ puis développer une petite expérience qui fera probablement que Facebook ferait partie de cette expérience-là aussi, mais je pourrais dépasser du cadre pour vraiment connecter les dots d'un point de vue CRM, mais d'un CRM d'engagement.
Oui.
Wow.
Et voilà qui conclut un autre PitchCast. Pour lire l'article que j'ai écrit à ce sujet, téléchargez l'application pour iPad Grenier Magazine sur l'App Store. Salut!